Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business et CB News présentent HebdoCom avec Thomas Asportas.
Bonjour à tous, bienvenue dans HebdoCom, votre émission pour tout savoir sur l'actu business, de la pub et du digital. Au programme aujourd'hui, nous recevons Katie Falco, la PDG de la branche Insight de Kantar en France, qui viendra nous parler des grandes manœuvres en cours dans le secteur des études de marché. Puis l'édito de la semaine, il est signé Charlotte Bricard de CB News, qui va nous expliquer que la communication autour du bio est en train de complètement bouleverser ses codes. Et puis on parlera dans le Zoom d'HebdoCom, d'AdTech, les pour et les contre de la publicité digitale à l'occasion de la deuxième édition de l'AdTech Summit, c'est le 22 novembre. Nos invités pour en parler, c'est Jérémy Parola, directeur des activités numériques du groupe de médias Reworld Media, et Frédéric Oliven, directeur général de l'agence de data marketing Weborama et président de l'IAB en France. Voilà le programme, mais on commence tout de suite, bien sûr, avec les news.
BFM Business, HebdoCom, les news.
Et nous avons le plaisir de recevoir, comme chaque semaine dans HebdoCom, Frédéric Roy de CB News. Bonjour Frédéric.
Bonjour Thomas.
Et Marie Valogne de la rédaction de BFM
Business.
Bonjour Thomas. Bonjour Marie. Alors Marie, cette semaine vous avez sélectionné trois spots, trois campagnes. On va commencer par celle de NGE, Société de Bâtiment, qui nous fait une campagne qui est à la fois une campagne de com et une campagne de recrutement.
Et oui, NGE s'inspire des codes de la presse économique et dévoile des affiches qui font penser à une couverture de magazine. Un magazine baptisé L'Optimiste, avec des portraits d'ingénieurs ou des conducteurs de travaux avec leur casque de chantier sur la tête. En une du magazine, ce titre, les 10 000 personnalités qui vont construire l'avenir. Une référence aux 10 000 bâtisseurs que le groupe veut recruter. La campagne est orchestrée par l'agence Josiane.
Et ça fera pas de mal quand on connaît les difficultés du bâtiment en ce moment. Marie, sinon, la marque d'œufs Pool House présente sa première campagne de pub. Frédéric, vous me disiez que vous avez été inondé d'œufs au bureau de CB News. Ouais. Une campagne pour sauver les poules.
Oui, parce que d'après la marque, chaque année, 50 millions de poules sont tuées à l'âge de 18 mois parce qu'elles ne pondent plus assez. Alors Pool House veut sensibiliser à ce sort tragique et bousculer le marché. Dans un film d'animation, on découvre le quotidien de ces poules dans un élevage. Elles pondent des œufs tous les jours. La production est intensive. Sauf qu'un jour, eh bien, l'une d'entre elles n'a pas d'œufs à présenter sous ses plumes. La sentence est immédiate. Un bras robotisé vient la retirer de l'élevage pour l'abattre. Ses consoeurs élaborent alors un plan pour éviter que la situation ne se reproduise. Un plan qui fait penser un peu au film de Chicken Run. Elle crée des faux œufs pour avoir toujours quelque chose à présenter et éviter d'être tuées si elles ne sont pas productives. Avec Pool House, pas besoin de stratagème et pas de stress pour ces poules. L'enseigne s'engage à les élever jusqu'à leur mort naturelle. La campagne est signée par l'agence BrainStation.
Et vous me ferez le plaisir tous de revoir Chicken Run pour Noël. Justement, on parle de Noël avec une publicité très attendue chaque année. C'est celle de la chaîne britannique John Lewis & Partner qui vient donc de dévoiler son nouveau compte de Noël.
L'enseigne nous plonge dans l'univers du Moyen-Âge pendant les fêtes de fin d'année. Dans un spot d'un peu plus de 2 minutes, on découvre les aventures d'une petite fille et de son animal de compagnie. Un animal de compagnie plutôt atypique puisqu'il s'agit d'un petit dragon qui est très attendrissant. Sauf que ce dragon fait beaucoup de bêtises. À chaque fois qu'il est content, il crache des flammes et son excitation a de lourdes conséquences. Ces flammes font fondre le bonhomme de neige des enfants ou la glace sous leurs pieds quand ils font du patinage. Il provoque même l'incendie du sapin de Noël du village. Alors les habitants finissent par lui tourner le dos. Pour éviter que toutes ces situations se reproduisent à nouveau, la petite fille essaye de réconcilier les habitants avec le dragon et font faire au dragon un pudding flambé grâce à ses flammes au repas de Noël du village. La campagne est signée Adam et Ève de DDB.
Merci beaucoup Marie. Fred, évidemment la saison des fêtes, la saison de Noël, c'est hyper important pour toutes ces chaînes, pour les grands magasins, pour les retailers.
Ouais, bien sûr.
Donc ça veut dire qu'ils doivent être au rendez-vous pour leur campagne.
Oui,
des moments attendus.
Ah bah oui, c'est un grand moment de commerce, à l'évidence. On le voit nous, chez nous, plutôt avec les films d'opérateurs. On a tous les Bouygues, les Oranges, etc., qui sortent leurs plus beaux films. En tout cas, c'est ce qu'ils essayent de faire chaque année. Là-dessus, les Anglais sont très très en avance sur nous.
Ah,
sont très très bons.
Évidemment, on va pas leur expliquer. Non. Merci beaucoup, merci Marie.
BFM Business, HebdoCom, l'invité.
L'invité de la semaine dans HebdoCom, c'est Katie Falco. Bonjour. Katie Falco. Vous êtes PDG pour la France de la division Insight de Kantar. Ça veut dire concrètement que vous gérez en France l'activité des études aux entreprises. C'est le métier de grands groupes mondiaux comme le vôtre. Kantar, je donne deux chiffres pour situer. 2 milliards de livres de chiffre d'affaires, donc plus de 2 milliards d'euros quand même. 30 000 collaborateurs dans le monde. C'est aussi le métier de vos concurrents, des noms qu'on connaît aussi. Nielsen, Ipsos, en France ou encore GFK. Et alors, je vais prendre 30 secondes pour planter le décor pour tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent. Votre métier, Katie Falco, le marché des études, est en plein bouleversement aujourd'hui parce qu'on peut tout mesurer. Hein, jusqu'à présent, mesurer les audiences. Maintenant, on peut aussi mesurer les comportements d'achat, comment on navigue sur Internet, ce qui va nous accrocher pour déclencher un acte d'achat. Tout ça, ça implique forcément pour vous de développer de nouveaux produits, de nouveaux services, de nouvelles offres. Évidemment, quand il faut développer de nouveaux produits, il faut investir. Ça implique des investissements très lourds. Et pour y arriver, en ce moment, qu'est-ce qui se passe dans votre secteur ? Il y a de la consolidation. Oui. Vous êtes bien placé pour en parler. C'est pour ça que vous êtes là, Katie Falco, puisque c'est vous qui avez géré à votre arrivée chez Kantar la fusion avec Millward Brown. Racontez-nous cette opération, Katie Falco. Racontez-nous cette fusion.
Alors, c'est à mon arrivée, en fait, on avait effectivement deux entreprises. Hein. On avait Kantar TNS, la Sofresse, et Kantar Millward Brown. Donc, on a décidé de fusionner ces deux entreprises rapidement. On l'a fait dans les deux mois où je suis arrivée, pour des raisons assez évidentes. C'était que ces deux entreprises, elles se concurrençaient. Et dans la logique du marché, qui est quand même assez tendue, il valait mieux mettre nos forces ensemble pour combattre plus activement et donner de la valeur au marché. Alors, on dit ça, fusionner deux entreprises, ça peut paraître assez facile. Et en fait, dans les faits,
ça peut être très compliqué. Une fois sur deux, ça ne marche pas. Hein, c'est bien sur BFM Business. Donc dites-nous comment vous avez fait pour que ça marche.
Alors, déjà, la première difficulté, c'était que Kantar TNS, la Sofresse, est une entreprise quand même beaucoup plus franco-française, sur des solutions ad hoc, plutôt customisées. C'est-à-dire qu'on peut partir d'une page blanche pour répondre à une problématique client. Mm-hmm. Tandis que Kantar Millward Brown, c'est vraiment des solutions beaucoup plus standardisées, avec des bases de données logique beaucoup plus anglo-saxonne. Donc vous voyez, deux entreprises différentes, deux cultures différentes, qui historiquement étaient sur deux sites différents, à l'opposé de Paris. Exactement. Donc voilà, donc, ça c'est pour planter le décor. Ouais. La réussite, ça a été d'expliquer aux salariés que de découvrir ce que faisait son ancien concurrent, c'était quand même de se renforcer sur son expertise. Et c'est quand même une chance de pouvoir savoir ce que fait un autre acteur du marché sur une expertise donnée. Donc, je vais vous donner des exemples. Quand vous travaillez sur l'accompagnement d'une marque, sur une logique de distribution, de communication, d'innovation, c'était une chance pour les salariés de comprendre ce que faisait un ancien concurrent et de s'ouvrir à d'autres solutions et d'être plus fort lorsqu'ils répondent à un appel d'offres.
Ouais, donc très complémentaires tous les deux.
Fred. Est-ce que c'est pas aussi, peut-être me trompais-je, mais Kantar était historiquement une boîte plus quanti que Millward Brown, qui était plus quali? Est-ce que c'est aussi ça l'avantage de la fusion, qui était, les cultures, vous le disiez, étaient très différentes, mais compris d'ailleurs dans la façon dont elles envisager les études?
Oui, alors les deux étaient quand même positionnés sur des études quantitatives et qualitatives, mais vous savez, notre métier a beaucoup bougé. Aujourd'hui, la part des études qu'on appelle déclaratives, qui est vraiment d'interroger les consommateurs, n'est qu'une part de ce qu'on fait. Donc c'est là où on s'est quand même largement transformé.
Parce que ça, effectivement, on connaît tous. Aujourd'hui, Kantar en 2019, c'est quoi justement tous ces nouveaux services que vous proposez?
Alors, Kantar en 2019, c'est de se dire que la première chose qu'on réalise, c'est d'auditer la data disponible. Vous savez, les clients disposent de beaucoup de data. Il y a beaucoup de data, open data, dont on peut disposer. Ouais. Et puis, il y a toute la data propriétaire de Kantar qu'on va apporter. C'est comme un puzzle et on va se dire, c'est quoi la pièce manquante que vous allez aller chercher spécifiquement pour compléter ce puzzle et répondre à la problématique d'un client. Mmh. Alors qu'avant, quand vous cherchiez une information, vous étiez une marque, peu importe le secteur, la seule façon de répondre à une problématique, c'était de questionner les individus. Aujourd'hui, l'information, elle est partout. Vous pouvez étudier ce qui se dit sur le web. Ouais. Vous pouvez analyser les émotions.
On est tous devenus une mine d'informations.
Exactement. Donc maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est que le ROI de la data, c'est qu'elle soit complémentaire de tout ce qui est existant. Et c'est pour ça que cet audit, en premier lieu, est très important.
Pardon, Fred.
Pardon, mais c'est ça qui vous distingue de vos... Il y a une concurrence, on parlait, Thomas disait Ipsos, Nielsen, etc. Mais il y a aussi des dizaines de boîtes, aujourd'hui, qui proposent des études qui, en se prenant précisément les datas qu'on trouve sur le web, etc., il faut que vous distinguiez de ces gens-là, oui, qui passent leur temps à essayer de vous disrupter, en quelque
absolument,
sorte.
Oui. Et puis même les noms de l'audit, du conseil, enfin et tout le monde, effectivement, est un peu sur ce créneau, sur ce marché de l'étude.
Tout à fait, et puis souvent, on nous cite les GAFA, qui sont pourtant GAFA, nos clients, par ailleurs.
Oui.
La différence, si vous voulez, c'est que déjà la data, elle s'oppose pas puisqu'elle se complète dans la compréhension d'un consommateur. Nous, notre ADN, c'est vraiment ça, c'est la compréhension. Je vais vous donner un exemple. Quand vous allez rechercher ce qui se dit sur le web ou ce qui la donnée comportementale, donc tout ce dont disposent les GAFA, ils peuvent répondre à une question qui est le quoi. Qu'est-ce que vous allez acheter? Qu'est-ce que vous souhaitez acheter? Ils ne répondent pas à la question du pourquoi. Pourquoi, au final, quand vous êtes sur un site marchand, si vous mettez un produit dans un panier, vous n'allez pas jusqu'au bout de l'acte d'achat? Et le pourquoi, ben on n'a rien trouvé de mieux que de poser des questions.
Ça
devrait vous parler.
Alors, justement, pour revenir sur cette question de la data, qui évidemment, ben on en parle toutes les semaines dans Hebdo.com, hein, ça transforme complètement toute l'industrie, l'impact pour les annonceurs, bien évidemment, et à tel point que ben, vous aussi, vous avez changé un petit peu de signature. Jusqu'à présent, vous présentez comme un cabinet d'études. Maintenant, vous dites, à votre arrivée, je veux faire de Quentin une data agency.
Tout à fait.
Concrètement, alors comment est-ce que ça change votre manière de travailler? Comment est-ce que ça change la manière de travailler de vos collaborateurs?
Donc, c'est vrai que...
Est-ce que c'est tous devenus des mineurs de data?
Et pardon, mais est-ce que c'est pas un peu lisser le nom? Tout le monde a le mot data à la bouche.
Oui, c'est vrai que c'est le nerf de la guerre. Collecter de la data propriétaire, c'est ce qui rend la valeur de, après, ce qu'on analyse, hein, c'est le premier niveau. Mais pourquoi c'est important d'avoir de la data propriétaire? C'est parce qu'on est dans une logique où on a aujourd'hui des difficultés à prouver qu'on peut utiliser de la data. Vous savez, la RGPD, il faut être RGPD compliant, ça veut dire protéger c'est la protection de la data personnelle, hein, des données personnelles.
Ouais.
La seule façon de protéger nos consommateurs, c'est que la data soit collectée par nous, dans le sens où on a demandé les accords aux panélistes qu'on interroge. Mmh. À partir du moment où vous avez des accords, vous pouvez utiliser leur data. Et là, du coup, on rentre dans une autre ère pour nous, institut d'études. C'est qu'avant, une étude, vous savez, ça finissait dans un rapport PowerPoint, et les gens disaient, bon, c'est très bien, mais c'est très théorique.
Mmh. Bon. C'est souvent le reproche qu'on pourrait entendre.
Oui, mais aujourd'hui, en fait, notre métier, il n'est plus de décrire une cible juste de manière théorique, c'est d'aller chercher cette cible dans la vraie vie.
Oui.
Et aujourd'hui, de pouvoir activer cette cible en temps réel sur une publicité qui leur correspond, c'est ce qu'on fait. Donc, vous voyez, là, en 20 ans, mais même en 30 ans, alors moi, j'ai que 20 ans derrière moi, mais j'ai étudié les 10 ans qui me manquaient, il y a eu quand même, c'est assez incroyable d'aller toucher dans la vraie vie le consommateur, la cible utile pour nos clients, c'est quelque chose quand même qu'on fait depuis, je dirais, 3-4 ans. Mais c'est ça qui a changé le ROI des études, en fait.
D'accord. Et bah, ça a tellement changé que ça a changé le nom de la fonction de ce qu'on fait chez vous aujourd'hui. On ne dit plus responsable des études, on dit architecte des stratégies, insight et data. Et c'est vous, Katie de Falco, donc la patronne de cette activité chez Kantar en France. Merci beaucoup d'avoir été notre invité, Katie de Falco.
Merci,
le temps passe vite. Tout de suite, c'est la suite d'Hebdo.com.
BFM Business, Hebdo.com, l'édito.
Et l'édito cette semaine, il est signé Charlotte Bricard de CB News. Bonjour Charlotte.
Bonjour Thomas.
Alors vous nous expliquez aujourd'hui que la com dans l'industrie du bio est complètement en train de changer ses codes.
Absolument. Le bio sans canaille, pour faire simple.
Ouais.
Naturalia, déjà au début du mois d'octobre, avait fait jaser en promettant de prendre soin de nos parties intimes, ou plutôt de nos abricots, grâce à des protections périodiques garanties sans glyphosate. Il l'avait fait à travers des affiches en 4x3, hein, sur lesquelles on voyait des corps de femmes qui étaient cadrés des épaules aux genoux et qui plaçaient devant leurs sous-vêtements, comme pour protéger leurs parties intimes, des fruits, comme des abricots, mais aussi des prunes ou des figues ou encore des amandes. Et les accroches se chargeaient de clarifier le message qui disait, si vous chassez les OGM de vos frigos, ce n'est pas pour les retrouver dans votre culotte.
Ah, effectivement, ça, c'est pas vraiment le genre de campagne de pub qu'on avait l'habitude de voir dans le bio, où d'habitude c'est plutôt propre sur soi, où on fait pas de vagues.
Très propre, absolument. D'ailleurs, pendant très très longtemps, finalement, c'était la communication des produits était un peu à l'image de leur packaging, très épuré, un peu comme si l'absence de tout tout additif chimique, pardon, ou toute substance nocive devait se traduire par l'absence de fioritures et l'absence de coquetterie. Dans les outils de communication, les codes étaient presque plus proches de celui de la santé que de celui de l'alimentation quand on parle de produits alimentaires. On repense notamment à cette fameuse campagne bio de Danone pour ces yaourts qui d'ailleurs n'avaient rien de bio, mais à l'époque tout le monde s'en fichait, et qui mettait en lumière le schéma du transit intestinal pour nous expliquer que ce qui se passe à l'intérieur peut se voir à l'extérieur.
C'était même pas une campagne, ça a été une saga, ça a duré des années. Hein.
Ça a duré quasiment une décennie jusqu'à ce que d'ailleurs Danone soit sommé de changer le nom de ces yaourts que l'on consomme aujourd'hui sous le nom Activia. Aujourd'hui, du coup, bien entendu, les produits agricoles certifiés biologiques le sont à travers la réglementation européenne et française, et elles le revendiquent haut et fort à travers le logo qu'on connaît. Et côté communication, ce qu'on observe, c'est que les acteurs se mettent en ordre de bataille pour être les premiers servis par la croissance très réjouissante de ce secteur, puisqu'on parle quand même de plus 15% en 2018. On découvre du coup de nouvelles armes, ce qui est assez logique. Et la bonne nouvelle, c'est que l'humour a droit de cité. L'agence Altman-Pacro, à qui l'on doit la campagne Naturalia que l'on vient d'évoquer, l'a bien compris et s'en donne à cœur joie à travers un autre exemple que je vous propose d'écouter ou de regarder.
Vous voyez, c'est dans ce petit coin de nature que poussent les pommes bio que vous retrouvez dans nos rayons. Elles sont cueillies ici, à la main, dans le respect du rythme des saisons. C'est vraiment très important pour nous de vendre du bio. Vous savez pourquoi ? Parce que ça rapporte énormément d'argent et que ça améliore notre image. Vous croyez quoi, qu'on fait ça par conviction ? Ça ne nous empêche pas de continuer à faire pousser des pommes pleines de pesticides juste à côté. Pas vrai, les gars ? Ils sont super. Alors, l'hiver, on fait pousser des tomates sous des serres surchauffées. On importe des fruits qu'on fait trois fois le tour de la Terre dans des jumbo jets qui crament des tonnes de kérosène.
Voilà une campagne délicieusement cynique pour Synadis Bio, qui est le syndicat des distributeurs spécialisés, parmi lesquels on retrouve Naturalia notamment, mais aussi La Vie Claire, Biocoop, Biomonde.
Ouais, toutes les enseignes spécialisées.
Ouais, et qui signe, pour certains, le bio est une étiquette, pour nous, c'est une éthique. Et un film qu'on ne se lasse pas de regarder, je trouve, tant pour la direction d'acteurs que l'on doit au réalisateur Hugues de la brosse, mais aussi tout simplement au plaisir de pouvoir à nouveau rire jaune devant une page de publicité.
Effectivement, on s'en lasse pas, et puis le bio, c'est sérieux, effectivement. Halte aux arnaques. Merci beaucoup, Charlotte.
BFM Business, Hebdo.com, le Zoom.
Allez, on s'intéresse maintenant à la tech dans le Zoom d'Hebdo.com. La tech, c'est cette formule américaine pour désigner les nouvelles technologies du digital qui bouleversent l'industrie de la publicité. Et pas forcément combien. Hein, j'imagine que vous êtes nombreux à estimer que tous ces cookies qui vous mettent le grappin dessus quand vous surfez sur Internet pour ensuite ne plus vous lâcher avec des publicités ciblées, parfois ça vous agace. Tout le monde n'est pas fan non plus des pubs intrusives qui apparaissent au gré de votre navigation sur Internet. Et le sujet est sur la table parce que vendredi prochain, c'est à Paris la deuxième édition de la Tech Summit. Mais nous, d'Hebdo.com, on a évidemment un temps d'avance, on en parle dès aujourd'hui avec nos deux invités. Frédéric Oliven, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur général de l'agence de data marketing Weborama. Vous êtes aussi président pour la France de l'IAB. L'IAB, je précise pour les gens qui nous regardent et qui nous écoutent, c'est l'Interactive Advertising Bureau. C'est l'organisation internationale qui regroupe les acteurs de la publicité sur Internet et qui s'occupe aussi de leur régulation. Évidemment, sujet très important, on va en parler. À vos côtés, Jérémy Parola. Bonjour Jérémy.
Bonjour.
Vous êtes directeur des activités numériques du groupe de médias ReWorld Media, très gros groupe de presse, hein, même numéro 1 en France de la presse magazine depuis que vous avez racheté l'italien Mondadori. Vous éditez une cinquantaine de magazines comme Marie France, Biba, Closer, Grazia. Je donne deux chiffres pour vous situer. 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, 1200 salariés, une ancienne ministre à votre board, Fleur Pellerin, qui vous a rejoint il n'y a pas longtemps pour accompagner la transformation. Ah bah non, évidemment, on suit Fleur Pellerin de très près. On va revenir sur tous ces sujets, bien sûr, mais d'abord, je me tourne vers vous. Frédéric Oliven, la tech, je le disais, ça peut agacer le plus souvent le public. Est-ce que le secteur l'a compris à l'occasion de cette tech? Est-ce qu'il y a une autorégulation qui est en train de se mettre en place, ou est-ce que, pour faire simple, on va dire que c'est toujours un peu le Far West?
Ça n'a jamais été le Far West. Toute innovation technologique, quel que soit le domaine, entraîne un certain nombre de nouveautés et d'autorégulations qui ont toujours été en œuvre. La question, c'est à la fois comment cette technologie, dans son impact sur l'économie numérique et donc sur l'économie en général, puisque toute économie se transforme vers le numérique aujourd'hui, donc c'est les emplois des gens aujourd'hui et demain. La question, c'est comment à la fois ça continue à créer de la valeur, sans valeur, il n'y a pas moins de chômage, il n'y a pas plus d'emplois. Et en même temps, comment elle est éthique. Il y a toujours eu la question de l'éthique dans la publicité. Ce n'est pas nouveau.
D'accord.
Donc, simplement, la différence, c'est l'impact technologique. La technologie permet un certain nombre de choses et la contrepartie de ce que la technologie permet, c'est les règles nouvelles qui sont créées. Alors, elles ne sont pas créées par l'IAB. L'IAB crée plutôt des normes d'interopérabilité entre les acteurs.
Ouais.
La régulation, elle vient du régulateur européen, elle vient de la loi française, elle vient des autorités de régulation, comme la CNIL, par exemple, qui s'imposent aux acteurs.
Vous êtes relais.
Et évidemment, on est tous, en tant qu'acteurs de la tech ou médias qui émettent des contenus pour que les gens les consomment, les regardent, et puis derrière, les annonceurs qui sont dans ces contextes, sont dans ces contenus pour faire la promotion de leurs produits et leurs services, ben, il faut que tout le monde y retrouve son compte.
Mm-hmm.
Alors l'internaute, vous le disiez, peut être agacé. C'est le sujet, vous me permettrez de dire, c'est pas le cookie à la limite, le cookie...
Non mais c'est un exemple, parce que c'est l'exemple le plus connu, voilà.
Si
évidemment,
prendre...
c'est plein d'autres choses là.
Oui, mais le cookie, je vais faire court, c'est un peu comme la démocratie, c'est le moins mauvais système. Parce que le gros avantage du cookie, c'est qu'il est visible d'une certaine façon dans la machine et l'internaute peut le supprimer, l'enlever.
Maintenant, on nous demande notre avis, effectivement,
voilà.
Avec la RGPD.
Donc ça, c'est un point important.
Donc là, l'occasion, de votre deuxième édition, votre bilan, c'est de dire que l'éthique, justement, pour reprendre le mot que vous employez, et les données personnelles, ça va mieux. Il y a des progrès qui ont été faits depuis la tech de l'an dernier,
depuis
la tech summit.
Encore une fois, je pense qu'on est dans une industrie extrêmement responsable. Et au fond, nos clients, ce sont les marques, et les marques sont extrêmement vigilantes
Absolument.
Pour leur réputation. Nous, on a coutume de dire, dans l'entreprise dont je le dirige l'activité en France, que si la data vous permet de créer de la valeur, mais qu'elle détruit en parallèle la valeur de votre marque, votre réputation, c'est un jeu à somme nulle qui n'a pas d'intérêt. Permettez-moi de penser que les annonceurs sont les premiers à avoir compris cela et qu'ils font très très attention aux technologies qu'ils utilisent, aux médias sur lesquels leurs publicités apparaissent. Et nous, acteurs de la technologie, pour parler de Webo, on est là pour les aider à être le plus respectueux possible de l'internaute, tout en profitant de ce que cette technologie permet en termes de création de valeur. C'est un équilibre à trouver, comme il est à trouver ou il a été à trouver à la télévision, à la radio, dans l'histoire de la publicité.
Jérémy Parola, vous êtes d'accord avec ce que Frédéric Olivier vient de dire ? Vous partagez son point de vue ?
Dans l'ensemble, je partage toujours le point de vue de Frédéric. dans l'ensemble, je partage le point de vue. Effectivement, on est sur un marché sur lequel on tape volontiers quand on en est de l'extérieur, parce que c'est un marché qui est extrêmement visible et extrêmement quantifiable. Donc à un moment donné, quand vous regardez la télé, quand vous regardez la radio, enfin quand vous écoutez la radio, on peut regarder aussi la radio visiblement ici aussi.
Bien sûr, on est radio-télé, BFM Business.
On est peut-être un peu moins conscient de ce qui se passe en termes de suivi, en termes de KPI, en termes de chiffres, d'informations, etc. Et je pense que, on va dire, l'accès à l'intégralité de ces données et de cette information sur le digital fait que il y a énormément de transparence. Hein. Globalement, on voit toutes les choses telles qu'elles se passent, qu'on soit annonceur, peut-être un peu moins quand on est un internaute lambda, mais bon, les réglementations et aussi les différentes actions des différents acteurs de la publicité et même des GAFA, des navigateurs internet font que les gens sont de plus en plus éduqués et comprennent un peu mieux les choses. Après, il y a quand même encore quelques biais sur notre marché. Il ne faut pas non plus envisager que tout va bien. Et je pense qu'on a encore pas mal de choses qu'on pourrait améliorer ou qu'on pourrait régler dans un futur proche pour essayer de faire en sorte que tout le monde y trouve son compte.
Mm-hmm. Ouais, parce que en fait, ce que vous disiez, Frédéric, et ce qui est vrai, c'est que les marques ont évidemment intérêt à ce que la publicité soit acceptée et non seulement acceptée, mais vue et qu'elle suscite une action de la part de l'internaute consommateur, et donc que pour ça elle soit de bonne qualité. À côté de ça, les éditeurs dont vous êtes le représentant ici, Jérémy, ont besoin de valoriser leur page, et on se trouve dans un équilibre qui est assez difficile entre la nécessité pour l'éditeur de vendre sa pub le plus cher possible, en tout cas de valoriser son audience, et la réalité qui est que plus on la valorise, c'est un peu, en effet, on pourrait l'assimiler aux écrans de publicitaires à la télé ou à la radio, sauf que sur une page internet, ça a quelque chose, et surtout quand c'est dans un téléphone, ça a quelque chose d'assez violent pour l'éditeur. Donc, comment est-ce qu'on fait? La profession a créé un digital ad trust qui est une sorte de label de qualité des sites. Mais est-ce que vous, en tant qu'éditeur, vous en êtes satisfait?
Alors, la notion de qualité, c'est quelque chose d'extrêmement subjectif. Et on est dans un marché ad tech, il y a tech quand même dans cette terminologie, qui passe par la technologie. En gros, il y a des milliards de choses qui se passent derrière chaque site internet, derrière chaque connexion à un site internet, qui sont des éléments qui sont plutôt de l'ordre de la technique. Donc aujourd'hui, et c'est plutôt la direction qui a pris effectivement le marché avec des labels comme le Digital Ag Tech, on s'est dit globalement il faut que la qualité elle soit quantifiable. Et ça, c'est quelque chose de bien puisque ça permet de créer des normes sur le marché. Aujourd'hui, ce qui indique principalement la qualité d'un inventaire publicitaire, c'est est-ce que la publicité a été vue ou pas. On en est là quand même. Et de cette notion de visibilité dépend le prix de la publicité, et du prix de la publicité dépend le chiffre d'affaires de l'éditeur. Et quand on remonte la chaîne de valeur, on peut la remonter loin, parce que faire de l'information, ça a un coût. La réalité aujourd'hui, et je pense que c'est un petit peu l'imperfection du marché, c'est qu'en s'étant beaucoup concentré sur un KPI qui est cette notion de visibilité, on a oublié quelque chose qui s'appelle le contexte éditorial. Enfin, on n'est pas que des vendeurs de publicité. Accessoirement, on produit du contenu éditorial. On a des lecteurs qui viennent nous voir sur Internet, et il faut un peu les respecter. Et le deuxième sujet, et c'est un point qui est extrêmement compliqué, c'est qu'à chaque fois qu'on crée une norme sur ce marché, de temps en temps, cette norme, elle se retourne contre nous, et elle peut se retourner aussi contre l'internaute, puisque aujourd'hui, pour vendre cher sa publicité, il faut qu'elle soit visible. Et pour qu'elle soit visible, il faut qu'elle soit plus souvent à l'écran. Et donc là, la boucle est bouclée, on se retrouve avec une situation qui est un petit peu problématique d'un point de vue de l'internaute. Donc, nous, à titre personnel, on milite pour quelque chose d'autre, qui serait de mesurer l'attention, qui serait de mesurer cette visibilité avec une notion de contexte de qualité. Après, voilà, le Digital Trust, c'est une première base qui est une base positive. Il fallait que le marché trouve quelque chose qui soit une base de discussion commune.
On va se poursuivre. Ouais. Dès la semaine prochaine, je suis désolé de vous interrompre, le débat est déjà fini. La discussion va se poursuivre, évidemment, toute la journée, la semaine prochaine, 22 décembre, je le disais, deuxième édition de la Tech Summit. Merci d'avoir été là, tous les deux, dans Hebdo.com, en avant-première, pour aborder ces sujets. Merci donc, Frédéric Oliven, merci Jérémy Parola, d'avoir été avec nous dans Hebdo.com, et puis merci beaucoup à vous, évidemment, Frédéric Roy, à la semaine prochaine, dans Hebdo.com. Très bon week-end sur BFM Business.
Tout ce qu'il faut savoir sur les marques et leurs stratégies de communication. Hebdo.com sur BFM Business.